le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, petit état des lieux de l'état des droits humains dans le monde. D'abord la Géorgie, il y a les autorités qui ont gelé les comptes d'organisations soutenant des manifestants et manifestantes afin de tuer les manifestations pacifiques. Cette décision des autorités géorgiennes de geler les comptes d'organisations de la société civile qui ont apporté un soutien financier crucial à des manifestants et des manifestantes détenus arbitrairement, en les aidant à payer leurs amendes et à se faire représenter par un avocat, constitue une nouvelle attaque flagrante des autorités géorgiennes contre les droits humains. Cette mesure vise à affaiblir encore davantage les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, et elle bafoue aussi les obligations internationales de la Géorgie en matière de droits humains. Les autorités géorgiennes doivent donc immédiatement mettre fin à leur répression incessante contre la société civile et les manifestations pacifiques. Le gel arbitraire de ces avoirs doit être levé sans délai. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, le 17 mars, il y a trois ONG géorgiennes, donc Nanoukas Found, qui est gérée par la journaliste Nanouka Zorzoliani. Il y a aussi Prosperity Georgia, dirigée par l'ancien premier ministre et homme d'affaires Nika Gilaouri, et l'ONG Human Rights House Tbilisi. Donc ces trois ONG ont annoncé qu'elles avaient été informées par leur banque que le tribunal de la ville de Tbilisi avait ordonné en urgence le gel de leurs comptes. Deux autres ONG, Found for Each Other's 24/7 et Shame Movement, ont également vu leurs avoirs gelés. Les fonds gelés avaient permis d'apporter une aide financière à des personnes condamnées à des amendes pour avoir participé aux manifestations anti-gouvernementales en cours ou licenciées en raison de leur activisme civique. Des militants et militantes locaux et locales ont indiqué que ce nouvel assaut pourrait, dans les faits, tuer l'ensemble du mouvement de protestation. Nanouka Zorzoliani, de Nanoukas Found, a été la première à signaler le gel de ses avoirs. Les quatre autres ONG confirmant par la suite que des mesures similaires avaient été prises à leur encontre. Aucune d'entre elles n'a été informée d'irrégularités financières avant cette décision de justice. Le parquet a ensuite publié une déclaration indiquant que les fonds avaient été saisis dans le cadre d'une enquête pour sabotage. Le parquet y affirmait que ces fonds étaient responsables de violences et de dégâts matériels liés aux manifestations en cours, bien qu'aucune preuve officielle ni aucun détail supplémentaire n'ait été fourni. Le gouvernement Rêve géorgien, qui est donc le parti au pouvoir, Rêve géorgien, c'est le parti qui est au gouvernement, il a récemment intensifié sa répression contre la société civile et la moindre opposition en instrumentalisant le système pénal du pays, et il introduit aussi une série de modifications législatives indûment restrictives visant la liberté d'expression et les rassemblements publics. Les modifications apportées à la loi relative aux assemblées et aux manifestations ont considérablement alourdi les amendes prévues, portées de 15 à 60 jours la durée de la détention administrative en cas de violation de la loi, et interdit des actes tels que le fait de se couvrir le visage. D'autres mesures législatives visent les organisations de la société civile et les médias indépendants, notamment les restrictions des financements étrangers, un contrôle accru de l'État sur les subventions et l'introduction de nouvelles infractions telles que l'insulte à l'égard de représentants de l'État. Ces modifications, associées à l'extension des pouvoirs des organes chargés de l'application des lois, portent gravement atteinte aux droits de réunion pacifique et font peser une lourde charge financière et juridique sur les manifestants et les manifestantes. Et pas loin à côté, en Russie, c'est pas beaucoup mieux. On demande aux autorités de protéger d'urgence et surtout de libérer la journaliste Maria Ponomarenko. C'est une journaliste et militante anti-guerre, injustement incarcérée, qui risque fortement de s'automutiler de nouveau. Les autorités russes doivent agir immédiatement afin de protéger Maria Ponomarenko des risques d'automutilation et veiller à ce qu'elle reçoive de toute urgence les soins dont elle a besoin. Les informations selon lesquelles elle s'est déjà automutilée et a entamé une grève de la faim et de la soif d'ailleurs, suscitent de vives inquiétudes quant à son état de santé. Tant que Maria Ponomarenko est détenue par les autorités russes, injustement emprisonnée hein, pour être exact, Celles-ci sont responsables de la protection de sa santé physique et mentale. Amnesty International leur demande donc d'autoriser de toute urgence un expert médical indépendant et un expert indépendant des droits humains à lui rendre visite afin d'évaluer ses conditions de détention et le traitement qui lui est réservé. Maria Ponomarenko n'aurait jamais dû être emprisonnée à la base et elle doit être libérée immédiatement et sans condition, ainsi que toutes les personnes détenues en vertu des lois répressives sur la censure au sujet de la guerre. Tant qu'elle est maintenue en détention, les autorités doivent veiller à ce que Maria Ponomarenko ne soit pas soumise à d'autres mauvais traitements ni actes de harcèlement. Elle fait l'objet d'une arrestation arbitraire, d'une incarcération inique et de mauvais traitements en détention, et les responsables présumés de ces violations doivent être amenés à rendre des comptes. En fait, Maria Ponomarenko, c'est juste une journaliste qui travaille pour le média en ligne RusNews, et qui a donc été condamné le 15 février 2023 à 6 ans d'emprisonnement en vertu de l'article 207.3 du code pénal russe en raison d'une publication postée sur les réseaux sociaux condamnant la frappe des forces russes contre le théâtre de Mariupol dans lequel des centaines de civils s'étaient semble-t-il réfugiés. Elle purge sa peine dans la colonie pénitentiaire IK6 de Chipounovo, à 175 km de Barnaul, dans le sud de la Sibérie. Et à cet endroit-là, elle subit de mauvais traitements, notamment de multiples placements en cellules d'isolement disciplinaire, des mises à l'isolement et la privation de soins de santé adéquats. En novembre 2023, les autorités ont engagé une deuxième procédure pénale contre Maria Ponomarenko, en vertu cette fois de l'article 321.2, au motif qu'elle aurait agressé deux agents masculins de la colonie pénitentiaire, une accusation qu'elle nie évidemment. Cette procédure s'inscrit dans la lignée des peines supplémentaires infligées aux prisonniers politiques, comme dans le cas de plein d'autres personnes. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les prisonniers et prisonnières russes, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour en apprendre plus sur le sujet et éventuellement signer les pétitions qui sont en rapport. Nous, on va passer à la Turquie, puisque c'est aussi un pays où on arrête beaucoup les gens pour aucune raison. La Turquie est en train d'intensifier sa répression, notamment avec l'arrestation du maire d'Istanbul. En fait, il s'agit d'une arrestation de plus de 100 personnes, dont le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Désolé pour la prononciation. Et ça, c'est des arrestations qui ont été faites dans le cadre d'enquêtes liées à la corruption et au terrorisme, entre guillemets bien sûr, ainsi qu'à l'interdiction générale de manifester pendant 4 jours et selon certaines informations aux restrictions de la bande passante sur X, YouTube, Instagram et TikTok. Dinushika Dissanayake, qui est notre directrice régionale adjointe pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré, je cite, « Les mesures draconiennes adoptées aujourd'hui représentent une forte intensification de la répression actuellement exercée par les autorités turques contre la dissidence pacifique. Cette répression vise le principal parti d'opposition, le CHP, alors que dans quelques jours seulement, il va probablement choisir le maire d'Istanbul comme candidat à l'élection présidentielle. Si l'utilisation qui est faite de vagues accusations liées au terrorisme pour arrêter et poursuivre des opposants et opposantes n'est pas une nouveauté, ces dernières arrestations et restrictions connexes représentent une intensification alarmante du ciblage des détracteurs et détractrices réels ou supposés de la principale opposition et d'autres encore, et un resserrement de l'étau sur la capacité de la société civile à exercer ses droits aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. Le recul radical des droits fondamentaux observés en Turquie au cours de la dernière décennie a généré un fort taux d'impunité pour les droits humains qui doit être combattu. Il faut savoir que des mandats d'arrêt ont également été émis contre une centaine d'autres personnes liées au maire d'Istanbul, notamment les maires des districts de Sisli, de Beylikdüzü à Istanbul, désolé pour la prononciation, et plus de 80 personnes ont été arrêtées, dont le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, aurait été placé en garde à vue aux premières heures du 19 mars, et 20 autres personnes encore allaient être arrêtées. Elles font l'objet d'une interdiction de communiquer avec des avocats et avocates pendant 24 heures et pourraient être maintenues en détention jusqu'à 4 jours. Il y a peu de temps, l'université d'Istanbul a annoncé qu'elle annulait le diplôme universitaire du maire Ekrem İmamoğlu après des semaines de spéculation publique sur sa validité. Et le fait d'être diplômé de l'université, c'est l'une des conditions d'éligibilité à la candidature de la présidence. Encore une fois, il pourrait bien s'agir de sabotage. Cette annonce intervient quelques jours seulement avant l'organisation par le parti d'opposition, le Parti Républicain du Peuple, le CHP, d'une élection primaire au cours de laquelle Ekrem İmamoğlu devrait être élu candidat à la présidence. Bref, la Turquie intensifie gravement sa répression contre l'opposition. Le gouverneur d'Istanbul a en outre annoncé la fermeture des principales lignes de métro et artères du centre d'Istanbul, ainsi que l'interdiction de toute manifestation et réunion à Istanbul pendant 4 jours. Selon l'organisme de surveillance d'internet NetBlock, l'accès à X, YouTube, Instagram et TikTok a été restreint dans le pays. Si vous voulez en savoir plus sur l'avancement de ces élections, et de cette répression surtout, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour en apprendre plus sur la situation. Moi, je vais finir, avant de vous quitter, par vous parler un petit peu de l'Europe et surtout des attaques de Paragon qui mettent en évidence la crise croissante des logiciels espions. Le Citizen Lab a publié un rapport identifiant de multiples cas qui impliquent l'utilisation du logiciel espion de Paragon contre des journalistes et des défenseurs et défenseuses des droits humains en Italie. Dancha Osterbeil, qui est notre responsable du Security Lab d'Amnesty International, a déclaré, je cite, « La découverte inquiétante de l'utilisation du logiciel espion intrusif Graphite de l'entreprise Paragon contre des défenseurs et défenseuses des droits humains et des journalistes en Italie illustre l'ampleur de la crise numérique de la surveillance à travers l'Europe. » Fait préoccupant, des organisations de secours en mer engagées dans des activités de sauvetage en Méditerranée ont été prises pour cible. Il s'agit d'une nouvelle menace numérique pour des organisations déjà confrontées à des menaces juridiques, à l'obstruction et à la criminalisation en Italie. Cette dernière étude vient s'ajouter aux précédentes conclusions d'Amnesty International et d'autres partenaires de la société civile qui dénoncent l'utilisation abusive et généralisée des logiciels espions en Europe. Malgré des scandales répétés et persistants en Serbie, en Espagne, en Grèce, en Pologne, en Hongrie et maintenant en Italie, les autorités au niveau national et européen n'ont pas pris de mesures efficaces. Le laxisme de l'Europe en matière de réglementation de l'industrie de la surveillance favorise énormément la crise mondiale des logiciels espions. L'enquête indépendante menée par le Security Lab d'Amnesty International au cours des 6 derniers mois a permis cependant de découvrir d'autres cas d'utilisation manifeste de logiciels espions, ciblant des militants et militantes engagés dans des opérations de sauvetage en mer en Italie. Il est quasi certain que les recherches menées par la société civile révéleront d'autres victimes. Ce que nous voyons n'est qu'une partie finalement de tout ce qui se passe, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parmi les cibles du logiciel espion figurent le journaliste Francesco Cancellato, le fondateur de Mediterranee Saving Humans, Luca Casarini et le cofondateur Giuseppe Beppe. Le Citizen Lab a également découvert que le téléphone du fondateur de l'ONG réfugié en Libye, David Yambo, avait été ciblé par un logiciel espion que le Citizen Lab n'a pas pu encore attribuer avec certitude à Paragon. Le logiciel espion Graphite de Paragon est une version très intrusive, capable d'accéder secrètement aux données les plus personnelles et les plus sensibles du téléphone et ne pouvant pas faire l'objet d'un contrôle indépendant. Un outil aussi intrusif ne pourra jamais respecter les droits humains et doit donc être interdit. Le mois dernier, WhatsApp a informé 90 personnes qu'elles avaient été ciblées par un logiciel espion, des rapports confirmant que la plupart des victimes étaient des journalistes et des militants et militantes des droits humains. La Commission européenne n'a pas mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête du Parlement européen formulées il y a plus d'un an concernant Pegasus et les logiciels espions de surveillance équivalents, la commission PEGA. Militants, militantes, journalistes et personnes vulnérables se retrouvent donc exposés à ces dangereux outils de surveillance. Si vous voulez en savoir plus sur ces logiciels espions et notamment sur d'autres comme Pegasus par exemple, je vous invite à lire les rapports de Citizen Lab ou bien nos rapports sur Amnesty International. Il y a pas mal de détails et c'est mieux expliqué, donc si ça vous intéresse, ça peut vraiment vous apporter plus d'informations de lire ces rapports ou simplement les résumés des rapports qui sont sur le site amnestyinternational.fr. Vous pouvez également signer les pétitions qui sont en cours pour insister auprès de l'Union européenne pour avoir une vraie réglementation à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça met pas mal de gens en danger, et notamment des gens qui défendent nos droits. Donc, si on pouvait protéger ces personnes-là, ce serait quand même une belle avancée pour les droits humains. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.